Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, il mesure pas moins de 185 mètres pour une longueur de plus de 2 300 km, créant une retenue d'eau de quelque 39 milliards de mètres cubes. Il s'agit du gigantesque barrage des Trois Gorges en Chine. Des chiffres impressionnants qui s'expliquent par le fait que ce barrage doit contenir l'eau du troisième plus grand fleuve au monde, après l'Amazone et le Nil, le Yangtze. Long de 6300 km, il prend sa source au Tibet avant de se jeter dans la mer de Chine orientale au nord de Shanghai. En 1992, après plusieurs études, débute la construction de ce barrage. Des milliers d'ouvriers travaillent d'arrache-pied 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 14 ans plus tard, en 2006, la montée des eaux est de 156 mètres. Elle devrait être de 175 mètres en septembre 2008. Principaux objectifs d'une telle opération, maîtriser le débit du fleuve, stopper les crues et augmenter la navigabilité, utiliser l'énergie hydroélectrique pour répondre aux besoins de la Chine avec son développement économique galopant, asseoir le pouvoir politique du gouvernement central. Oui, mais voilà, avec un réservoir qui s'étend sur 660 km, les conséquences sont multiples. Un déplacement et un relogement d'1 800 000 personnes, voire même 2 millions, des risques de glissement de terrain, une transformation complète de l'écosystème, des risques de pollution industrielle. Pour évoquer avec nous la politique de migration forcée, les enjeux géopolitiques, Thierry Sanjouan est avec nous en studio. Thierry Sanjouan, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints ici au cœur de l'Institut de France, à Canal Académie. Vous êtes géographe, spécialiste de la Chine. Vous avez reçu en 2007 le prix Ernest Lémonon, ici à l'Institut, pour la direction du dictionnaire de la Chine contemporaine, paru aux éditions Armand Collin en 2006. Et puis j'ajoute également que vient de paraître l'Atlas de la Chine, les mutations accélérées aux éditions Autrement, paru en septembre 2007. Avec vous, nous allons pouvoir parler dans quelques instants de l'histoire précédant la construction de ce barrage et de ce contexte politique, des financements, des techniques de construction, des impacts économiques et puis des Chinois eux-mêmes. Qu'en pensent-ils? Comment vivent-ils leurs déplacements et quels sont les risques possibles pour les années à venir? Auparavant, Thierry Sanjouan, il me semble que vous vouliez apporter une précision lors de ma présentation sur les 185 mètres du barrage des Trois Gorges.
Oui, alors on dit que c'est le deuxième plus haut barrage au monde. C'est vrai, mais dans la mesure où il est 185 mètres, c'est l'altitude, en fait. Il est sur un socle à 65-70 mètres, et donc le barrage en tant que tel, il fait entre 110 et 120 mètres de haut. Mais sur une longueur, comme vous le dites, de 2 300 mètres, donc 2,3 km.
La construction du barrage a commencé en 1992, mais l'idée même de créer un barrage est beaucoup plus ancienne, ça date de 1919.
Oui, alors le gouvernement chinois, ou les Chinois souvent, ont besoin, pour justifier de tels projets, en fait, qui coûtent quand même beaucoup d'argent, qui sont des projets nationaux, qui ont des inconnues environnementales assez fortes, qui demandent, comme vous l'avez dit, un déplacement de population relativement important, de trouver leur justification dans les pères fondateurs. Alors le premier père fondateur, c'est Sun Yat-sen, le premier président de la République chinoise en 1912, et il avait eu effectivement l'idée, il avait publié en 1919, un ouvrage pour dire qu'il fallait aménager le Yangtze et qu'il fallait construire effectivement un ou des barrages, en tous les cas, le long du Yangtze pour valoriser en fait cet axe fluvial. Il faut voir que le Yangtze, c'est finalement la principale pénétrante est-ouest du littoral vers l'intérieur de la Chine, qui traverse de Shanghai la région des lacs avec le Hubei et le Hunan, la région des Trois Gorges, puis après la province du Sichuan, où il y a de très fortes populations, deux fois la population de la France, rien que pour la province du Sichuan.
Ce barrage, il y a une idée qui émerge. Plusieurs fois, l'idée est remise dans les tiroirs. On le ressort plusieurs fois d'affilée parce qu'arrive la période de la guerre, des crises financières. À quel moment, réellement, le projet va pouvoir réellement émergé, avant 1992 et la date de la construction, du début de la construction.
Alors, l'ironie de l'histoire, c'est que ce projet a été imaginé par un technicien hydraulicien américain pour le compte des nationalistes dans les années 30. Mais bien évidemment, la guerre, effectivement, et puis après les crises économiques et la guerre civile, ont rendu impossible la réalisation de ce projet. Et c'est dans les années 1950 que l'on choisit deux choses. Là, le deuxième père fondateur de la Chine contemporaine, à savoir le père de la République populaire de Chine, Mao Zedong, on choisit, un, de ne faire qu'un seul barrage. On aurait pu choisir de faire plusieurs barrages et sur les affluents également. Mais là, on va faire un grand barrage en 53. L'idée est décidée en 53, imposée par Mao. Et en 1959, il impose une autre idée, à savoir le site, le lieu où est construit aujourd'hui le barrage, à savoir Sanduping.
Un premier barrage est quand même construit à Gezhouba, c'est ça ?
Alors,
c'était dans la première idée du barrage des Trois Gorges ?
Effectivement, dans les années... Donc, on veut créer ce barrage, mais cette idée est balayée, en fait, par les événements de la politique intérieure chinoise. Le grand bond en avant, 58-61, puis après la révolution culturelle, on a, en fait, non plus pas les moyens financiers, pas les moyens techniques, on peut pas réaliser un tel barrage. Dans les années 70, ne pouvant pas faire ce barrage, ils en construisent un plus en aval, qui est effectivement le barrage de Gezhouba, qui a été mis en service dans les années 1980, qui est un premier barrage donc avec une production d'hydroélectricité relativement importante et que l'on traverse d'ailleurs depuis les années 1980 en bateau quand on descend le Yangtze.
Alors, ce barrage, en 1992, débarre sa construction. Il faut bien sûr des financements. Je suppose que la Chine ne devait pas forcément avoir beaucoup d'argent à la base. Comment elle a pu réaliser ses crédits et comment elle a trouvé une source financière pour pouvoir financer ce barrage ?
Alors fondamentalement, les Chinois ont voulu que ce barrage soit le leur. D'autant plus que les lobbies écologistes américains, prolongés par les autorités américaines et la Banque mondiale, étaient opposés à ce projet. Ce qui fait que pour les Chinois, c'est un peu un pied de nez à l'opinion internationale et à l'opinion occidentale que de créer aussi ce barrage dans une logique où on est quand même dans un contexte qui réhérissait très nationaliste et très revanchard d'une certaine manière par rapport à ce qu'ils appellent le siècle de l'humiliation, 1842-1949. C'est l'État chinois qui a, pour l'essentiel, payé ce barrage. Alors, il a fait des prêts, il a également créé une taxe sur l'électricité pour financer ce barrage, il a bénéficié de l'argent que dégage Gezhouba avec de la production hydroélectrique, mais c'est fondamentalement l'État central, c'est quelque chose qu'il faut tout à fait souligner, ce ne sont pas les autorités provinciales, ce ne sont pas bien évidemment les autorités locales, elles n'en auraient pas eu les forces, mais c'est l'État central qui décide de créer ce barrage avec un homme qui se veut le père du barrage, à savoir Li Peng, qui a, dans les années, deuxième moitié des années 80, été à la source des expertises pour la construction de barrages et qui a la main, après les événements de Tiananmen en 1989, entre 1989 et 1992, où on essaye, dans une période où la Chine est un peu repliée sur elle-même, de relancer les grands projets d'État. C'est un grand projet d'État, d'une certaine manière, donc d'origine maoïste. Mais quand on parle de la nouvelle zone de Pudong, vous savez, dans le développement de Shanghai à l'est de la ville, c'est aussi un projet maoïste. Quand on va le voir, la dérivation des eaux du Yangtze vers le nord, c'est également un projet qui date des années 50. Donc les années 50 restent cruciales pour comprendre les politiques d'aménagement du territoire en Chine aujourd'hui.
Ce barrage, je le disais en présentant le sujet, va permettre d'augmenter la navigabilité. Également, c'est un grand barrage hydroélectrique. Là encore, il y a besoin de matériel et notamment de turbines. Ce sont les Européens qui arrivent les premiers sur le marché et les États-Unis restent encore les grands absents de ce grand projet.
Les États-Unis ayant été s'étant opposés au projet, effectivement, ont été absents. Ils n'ont pas répondu à l'appel d'offres.
Pourtant, là, c'était des entreprises privées, ça n'engageait pas les États-Unis.
Oui, mais il se trouve que ce sont les Européens, effectivement. Alors, pour les turbo-alternateurs, c'est Alstom et Siemens qui ont remporté le marché.
Avec combien de turbines et quelle énergie va pouvoir être dégagée de ce barrage ?
Alors, 26 turbo-alternateurs, 14 d'un côté, 12 de l'autre, 18 200 mégawatts de production électrique. L'idée était de faire à peu près 10% de la production électrique chinoise.
Et donc, qui peut alimenter, je suppose, des villes entières ?
Oui, alors bien évidemment, les grandes villes de la région, et puis irriguer jusqu'aux villes du littoral.
Est-ce que la mise en route de ce barrage en septembre 2008, il devrait déjà être... Enfin, la mise en route 2008, c'est pas exact, parce que la montée des eaux est déjà effective. Est-ce qu'il y a un lien avec les Jeux Olympiques ? Est-ce que je suppose que cette énergie et ces dérivations d'eau ont un lien avec...
Non, parce que le calendrier a été fixé en 1992-1993 et que l'on attendait à cette époque d'avoir les Jeux Olympiques en 2000.
Si vous le voulez bien, intéressons-nous aux Chinois, parce qu'on parle bien sûr de ces questions de chiffres, donc 6300 km de long pour ce fleuve, de cette hauteur de barrage, mais ces Chinois, il faut les déplacer. Les derniers chiffres parlent de 1 800 000, voire 2 millions de personnes déplacées et relogées.
Oh, le maire de Chongqing, en octobre dernier, a même fait une gaffe. Il a parlé de 4 millions de personnes. En fait, c'est assez compliqué. On pensait déplacer 800 000 personnes. Le chiffre qui est resté longtemps officiel, c'est 1 200 000 et 1 400 000. C'est le vrai chiffre officiel. Et on évalue à 1 800 000, 2 millions aujourd'hui.
D'où viennent ces 300, 400 000 personnes qui se sont greffées à ces premiers chiffres officiels ?
En fait, par une double délocalisation. Comme on fait monter les eaux, on en noie les berges. Donc, on en noie une partie des villes, les embarcadères, les entrepôts, une partie des villes sont en noyelle. Il y avait il y a encore aujourd'hui, puisqu'on n'est pas monté jusqu'à 175 mètres, vous avez une ligne rouge sur les bâtiments, sur les pylônes, et on vous dit, jusqu'à cette hauteur, on va en noyer. Bon. Donc, il faut bien reloger les populations. Alors, on les reloge dans des quartiers un peu plus en haut des terres, en haut de la ville actuelle, ou sur d'autres villes, ou on les déloge dans d'autres provinces. L'autre inconvénient, c'est que l'on en noie également les terres cultivées, les terres donc fertilisées par le limon du fleuve. Et donc, on donne aux paysans qui sont frustrés, délogés et frustrés de leurs terres, on leur donne des terres plus en altitude, mais ces terres sont plus pentues, moins fertiles, et on a été jusqu'à interdire en 2001 que les cultivateurs cultivent sur des terres où la pente est supérieure à 25%. Et on a construit des bâtiments également, on a construit du logement sur ces pentes, et vous avez maintenant des maisons qui commencent à s'effriter, qui sont en danger.
Donc, actuellement déjà ?
Oui, parce que les conditions ne sont pas satisfaisantes, et donc il faut penser à les reloger.
Donc, reloger les personnes qui ont déjà été relogées une première fois.
Qui ont déjà été déplacées. Alors, il y en a qui n'ont pas encore été relogées. D'autres ont été relogées, mais avec de nouveaux problèmes. Et puis, de toute façon, la région qui était très, très pauvre, initialement, qui donc il y a des facteurs de reconversion économique, de développement du tourisme dans la région qui devrait quand même un peu amortir les dégâts humains et sociaux de ce problème, ne suffisent quand même pas à donner du travail à tout le monde. Donc vous avez aussi des phénomènes de migration vers des grandes villes qui sont soit très périphériques, très proches, je veux dire, comme Chongqing, ou qui peuvent être plus lointaines, comme Wuhan, Canton, Shanghai, pour certaines populations. Mais là, parfois, elles sont autoritairement déplacées aussi.
Je vous propose de marquer une première pause, Thierry Sanjoin. La deuxième partie, nous poursuivrons sur cette question des six Chinois dans tout ça. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie.
Yeah.
suite de notre émission Éclairage en compagnie de Thierry Sonjouan. Dans cette deuxième partie consacrée au barrage des Trois Gorges, Thierry Sonjouan, nous allons poursuivre sur ces questions des Chinois qui sont déplacés. Le gouvernement assure un gain de qualité de vie à ses habitants en les relogeant dans des endroits plus spacieux, avec des infrastructures nouvelles, un réseau routier amélioré. Vous qui faites des voyages régulièrement en Chine, qu'en est-il ? Est-ce que la version officielle correspond à ce que vous voyez, vous ?
Globalement, il faut bien dire que oui. Au sens où nous étions dans une région extrêmement pauvre, de la culture, des usines très anciennes, le transport ne se faisait que par cabotage. Nous étions en fait dans un angle mort où Chongqing était dynamique à l'ouest, et puis il fallait aller jusqu'à Changsha ou Wuhan pour que ce soit de nouveau dynamique à l'est. Donc, ces populations, ce qu'a voulu faire le gouvernement chinois, c'est ne pas faire ce qu'il avait fait dans les années 60, quand il avait fait un grand barrage, Sanmenxia, sur le fleuve Jaune, à savoir ne pas simplement déplacer les populations, mais en faire également un projet de développement régional et un projet de développement économique et social pour ces populations. Donc, d'abord, il faut donc les reloger. On crée de l'habitat collectif, neuf, avec tout le confort, soit en extension des villes déjà existantes, soit on crée de nouvelles villes sur des terres plus planes, ou à côté, ou de l'autre côté du fleuve. Et globalement, les populations ne peuvent pas être mécontentes de conditions de vie qui s'améliorent. Ce dont elles peuvent être mécontentes, c'est de plusieurs choses. Elles peuvent être mécontentes que quand on est cultivateur, et qu'on avait planté des orangers, il faut 5 ans pour qu'ils donnent des fruits, et ça n'a pas été compté dans les indemnisations, parce que c'était trop tôt, ils ne donnaient pas encore de fruits quand on a fait le recensement. Les paysans sont mécontents également, parce que ils exploitaient toutes les terres, sans que ce soit forcément inscrit au cadastre. Et là aussi, ça ne leur a pas été compté.
Ils se retrouvent lésés.
Et en plus, on leur donne donc des terres trop pentues, pas assez fertiles, inadaptés à leurs cultures anciennes, et là, ils se sentent effectivement trompés. Enfin, le système qu'a adopté l'État central, c'est de donner initialement 90 milliards de yuan, 50 pour le barrage, 40 pour les indemnisations et le développement régional. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné, en respectant la hiérarchie administrative, donc, il a donné à la municipalité de Chongqing, puis après, qui a redistribué au niveau des gouvernements de district, puis après, au niveau des bourgs, puis après, au niveau des villages. Et donc, c'est tout la hiérarchie administrative qui a touché cet argent pour faire soit des projets de places, de routes, d'équipements collectifs dans deux villes qui sont en train de se renouveler. Et puis, également, cet argent devait être redistribué aux populations. Et en cela, il y a eu des phénomènes de corruption, des mécontentements populaires, à tel point qu'à la fin des années 90, le premier ministre Zhu Rongji, à l'époque, était allé dans la région pour lutter contre la corruption, car des cadres étaient partis avec l'argent, des cadres s'étaient construits déjà une belle maison avec une piscine.
C'est justement la question que j'allais vous poser, sur la question de la corruption.
C'est quand même un des problèmes majeurs, c'est un manque de confiance, en fait, des populations locales par rapport aux cadres locaux, et j'insiste beaucoup par rapport au pouvoir central, mais par rapport aux cadres locaux. En fait, les populations locales, elles sont pas contre le barrage, au fond, parce que ça leur apporte du mieux-être et des occasions nouvelles d'emploi et des modes de vie meilleurs. Elles sont mécontentes quand on les oblige, bien sûr, à partir à Canton, à partir à Shanghai, où elles sont mal reçues. Là, bien sûr, elles sont mécontentes. Mais au fond, ce barrage, il peut susciter, et tout ce qui va avec ce barrage, ça peut susciter un peu plus de richesse dans des régions qui étaient quand même très très pauvres. Donc on n'en veut pas au gouvernement. En plus, le gouvernement, il a donné l'argent pour les indemnisations. Sauf que cet argent, il s'est évaporé dans la poche de bon nombre de cadres locaux qui sont partis avec, tout simplement.
Et avant de marquer la première pause, vous nous expliquez que des personnes avaient été logées une première fois, étaient en attente d'être relogées une seconde fois.
Alors, en attente, oui, elles attendent au sens où elles réclament. Mais elles n'auront probablement pas, d'ailleurs, satisfaction à leurs revendications. Parce que, effectivement, ces maisons peuvent être de mauvaise qualité. Mais ce qui est très important, c'est, me semble-t-il, de souligner que la population locale conteste le cadre local qui est le prédateur immédiat par rapport à elle, celui qui ne l'a pas indemnisée convenablement et qui a construit des choses qui n'étaient pas forcément nécessaires comme un bel hôtel de ville alors que nous, on a besoin d'avoir un peu d'argent dans nos poches. Mais ils ne contestent pas le pouvoir central. Au contraire, ces populations locales se retournent vers le pouvoir central pour dénoncer les cadres locaux. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, d'une certaine manière, à une échelle plus globale, à l'échelle de la Chine, le régime tient. C'est qu'il y a des mécontentements locaux un peu partout, de nature très diverse, donc qui ne peuvent pas forcément se fédérer, mais qui ne remettent pas au fond en question le pouvoir central.
Et parmi cette population qui est, déplacée, il y a donc des paysans. Je suppose qu'il y a de la culture vivrière, mais il y a aussi de la culture qui est réalisée pour être vendue. Est-ce que dans les années à venir, ou déjà maintenant, on remarque, par exemple, peut-être une hausse des prix de certains produits alimentaires parce qu'on les cultive moins?
On n'a pas beaucoup d'enquêtes très claires sur les reconversions des productions agricoles, me semble-t-il. Elles sont certainement vivrières, effectivement, parce que cette région était très enclavée. Et on a tendance à dire que maintenant, la production essaye de se porter de plus en plus sur les marchés urbains qui sont à proximité, que ce soit marché urbain de Chongqing ou marché urbain. Changsha, Wuhan, c'est assez loin. Disons déjà le marché urbain de Yichang, qui est la ville pivot du projet du développement du barrage des Trois-Gorges et qui se trouve juste en aval du barrage lui-même.
Venons-en aux villes qui vont peut-être tirer un très très grand bénéfice. Yichang, par exemple, va devenir la future grande zone industrielle, ou peut-être que c'était déjà le cas et qu'elle va encore plus se développer.
Bon, ça, c'est ce qu'ils disent et ce qu'ils aimeraient bien. Non, très, très simplement, nous avons une grande ville qui est en train de se développer, c'est Chongqing, en amont de la région des Trois-Gorges, donc à 660 km quand même, hein, du barrage lui-même. Et nous avons donc des itinéraires de touristes qui vont à Chongqing, qui prennent le bateau, qui descendent, et qui descendent jusqu'à Yichang, la ville de Yichang, qui a un aéroport dorénavant. Et à partir de Yichang, on peut prendre l'aéroport pour retourner à Pékin, pour aller à Shanghai, ou pour aller à Canton ou à Hong Kong. Yichang a une zone de développement économique et technique, qui est d'ailleurs finalement assez isolée par rapport à la ville. Elle s'est profondément renouvelée, elle s'est modernisée, mais elle ne devient pas une des villes majeures de la Chine, très 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 loin de là. D'ailleurs, les principaux investissements sont quand même des investissements des entreprises de Yichang elles-mêmes.
Donc, quand on parle de l'industrie, de la chimie, de la pharmacie, de l'agroalimentaire, du papier, du textile, ça restera un seuil raisonnable. On ne sera pas dans une grande expansion économique de cette ville.
Elle ne va pas devenir une métropole de la Chine, non, je ne pense pas. D'ailleurs, de toute façon, elle n'en a pas le statut administratif.
Et le tourisme, alors, ça va être vraiment la pierre angulaire de Chongqing?
Le tourisme, c'est depuis qu'on a le projet du barrage, on va visiter les trois gorges et les trois petites gorges qui sont sur un affluent, qui sont presque plus belles que les trois grandes gorges éponymes. On va voir, bien sûr, le barrage. Alors, on va avant la montée des eaux, on va après la première étape de montée des eaux, on ira après la montée des eaux. Et il y a une vraie volonté de développement de nature touristique qui profite très fortement à Chongqing et à Yichang, les deux villes qui sont au bout de la chaîne. Et alors, il y a des temples qui ont été ennoyés pour partie, ou des pagodes, vous avez des temples qui ont été déplacés, remis sur des pentes un peu plus élevées, vous avez un certain nombre de sites qui sont en plus des sites liés à la littérature chinoise, à des histoires, à des romans chinois, à des poèmes chinois. Donc tout ça, c'est un lieu de mémoire pour le touriste chinois. Donc quand il va essentiellement en visite groupée, en fait, le guide lui rappelle des histoires qu'il a apprises quand il était enfant.
Donc les parcours thématiques sont beaucoup plus aisés pour longer.
Oui. Puis l'endroit est un lieu un peu mythique quand même.
Dans l'article du Monde daté du 11 janvier 2008, vous en avez parlé là il y a quelques minutes, mais je vais le reciter, comme ça sera l'occasion d'en parler plus en détail. Je cite donc l'auteur, qui est Brice Pedroletti. « La construction du barrage des Trois-Gorges s'inscrit dans un projet plus large, tenu longtemps caché, puis aujourd'hui officiellement proclamé, le détournement d'une partie des eaux du Yangtze vers les provinces du nord de la Chine. » Donc l'idée, c'est justement de voir encore beaucoup plus loin, de pouvoir alimenter la Chine beaucoup plus loin que ce qu'il y a actuellement avec le Yangtze.
Oui, c'est compliqué parce que il y a deux visions possibles. Soit on dit les Chinois ont un plan d'aménagement du territoire mis en place dans les années 50, redéfini dans les années 80, et ils appliquent les étapes les unes après les autres. Et effectivement, début de 2000, ils ont sorti soudain l'idée qu'il fallait dériver une partie des eaux du Yangtze vers le nord. C'était profitable à Pékin, qui avait besoin, toute la région de Pékin a besoin d'eau pour de multiples raisons. On a trop solliciter les ressources en eau locales. On a un phénomène d'industrialisation, d'urbanisation. On a aussi une production de maïs qui demande beaucoup d'eau également. Et donc, cette eau-là, on peut pas la prendre au fleuve jaune, donc on va la prendre au Yangtze. Par soit deux routes, la route orientale, qui est la route du... On réemprunte le Grand Canal construit au 7e siècle, soit on prend de l'eau dans un réservoir construit déjà préalablement sur un affluent du Yangtze. Ou l'autre version, c'est les Chinois, ben, ils font un coup par coup, ils ont fait leur barrage, et puis après ils se sont dit, tiens, on pourrait prendre de l'eau. Alors, je pense que c'est l'un et l'autre. Je pense que il y a un projet global, mais qui se fait par à-coup, et qui se fait par conjoncture, et par rapport de force politique au sein du parti également. Ça joue aussi. Et rapport de force au sein du parti entre les cliques, qui sont pas forcément des cliques idéologiques, mais qui peuvent être aussi des cliques régionales. En 1992, vous avez eu des scientifiques chinois qui se sont opposés à la construction du barrage. Mais vous avez aussi des régions qui se sont opposées au barrage. Vous avez eu la ville de Shanghai qui s'est opposée à la construction du barrage. Et vous avez eu la province du Sichuan qui s'est opposée à la construction du barrage.
Parce qu'ils avaient peur d'un coût trop important, d'un poids financier trop lourd.
Alors, pour Shanghai, c'était pourquoi on allait payer un barrage dont nous ne profiterions pas. Mais on peut se poser la question de si en 92, ils ne savaient pas déjà que derrière le barrage, il y avait aussi d'autres idées qui étaient d'aller prendre de l'eau pour Pékin. L'idée aussi, c'est que ce barrage va réguler le débit, mais que d'une certaine manière, on risque d'avoir une entrée des eaux de mer plus à l'intérieur des terres, une déstabilisation du delta du Yangtze, où se trouve Shanghai, un delta qui, de toute façon, déjà aujourd'hui, a un peu tendance à s'enfoncer. Puis l'autre province qui s'est vigoureusement opposée à la construction du barrage, c'est la province du Sichuan, ce qu'on appelait, il fut un temps, le bassin rouge, et qui, elle, ne voulait pas payer les conséquences humaines du barrage, qui ne voulait pas payer les conséquences écologiques du barrage, à tel point que le gouvernement central a joué de la concurrence entre la ville de Chongqing et Chengdu, capitale du Sichuan, deux villes qui sont très différentes dans leur orientation, dans leur histoire, et qui sont rivales par l'histoire. Et le pouvoir central a décidé que Chongqing serait séparé de la province du Sichuan, deviendrait une municipalité de rang provincial, donc relevant directement du pouvoir central, comme les Pékin, comme les Tianjin, comme les Shanghai, et que ce serait Chongqing, on lui offrirait une relative autonomie par rapport à son voisin, on lui offrirait des avantages économiques, mais à charge, c'est de gérer toutes les conséquences du barrage des Trois-Gorges dans la région des Trois-Gorges.
Mais pour alimenter ces provinces du Nord par le biais de dérivations, est-ce qu'on est dans le domaine de l'utopie ou est-ce que, comme pour le barrage des Trois-Gorges, après plusieurs années, d'ici 15-20 ans, on pourrait arriver à ce système de dérivation ?
Ah, mais ils ont commencé à construire en décembre. Donc,
la question ne se pose plus, en fait.
Non, ça va tellement vite qu'effectivement, ça se pose plus parce qu'ils officialisent des choses qu'ils ont déjà dans les cartons et ils ont déjà programmé cela à assez courte échéance. Alors, le plus sérieux, c'est ce qu'on appelle la voie médiane. C'est où on prend de l'eau d'un réservoir qui est lié à un barrage qui s'appelle Danjiangko et qui est sur un affluent du Yangtze. On prend cette eau, on l'amène à Shanghai. On a le problème du Grand Canal qui, avant, allait de Hangzhou à Pékin. Donc du sud de Shanghai jusqu'à la capitale chinoise, et qui aujourd'hui devrait dériver une partie des eaux au niveau, là pour le coup, du delta du Yangtze. Mais avec l'inconvénient d'eau polluée, il y a beaucoup de travaux à faire. Alors c'est quand même des travaux gigantesques, parce que par exemple, ces eaux dérivées, ces canaux de dérivation, ils vont rencontrer d'autres fleuves sur leur route, à savoir ils vont notamment rencontrer le fleuve jaune. Donc on fait de gigantesques tunnels sous le lit du fleuve Jaune pour faire passer les eaux du Yangtze en direction de Pékin. Et puis, on a une troisième voie qui est la voie occidentale qui devrait venir de très à l'ouest de la Chine. Mais là, les travaux sont tellement considérables qu'on peut penser qu'on ne les connaîtra pas avant longtemps.
Donc, avec un paysage qui va profondément changer, qui a déjà, je suppose, profondément changé avec la montée des eaux, avec le barrage des Trois Gorges, mais qui va se poursuivre dans le changement.
Oui, probablement, oui.
Je vous propose de marquer une seconde courte pause, Thierry Sanjouan. Dans la dernière partie, nous évoquerons les crises actuelles et les risques à venir, notamment les risques écologiques. À tout de suite.
Il est là, il est venu, le chevalier des mots, celui qui s'est battu sans peur et sans reproche pour que vive le bon français, qui nous a fait aimer la lecture et même l'orthographe. Vous l'aurez reconnu, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. Et quand il parle du vin, son vocabulaire devient gouléant, on croirait qu'il déguste les mots français. C'est un régal, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie.
Troisième partie de notre émission, éclairage toujours en compagnie de Thierry Sanjouan. Dans cette dernière partie, nous allons évoquer avec vous, Thierry Sanjouan, les crises actuelles, les risques à venir. Commençons, si vous le voulez bien, par le patrimoine, car c'est une immense zone qui est en noyer, qui est déjà en noyer et qui va se poursuivre. Je suppose qu'il y a un patrimoine archéologique de valeur qui est perdu pendant de longues années, avant de faire peut-être des fouilles archéologiques sous-marines.
Ben, le problème, c'est qu'on est en train d'ennoyer un trésor patrimonial que l'on n'a jamais véritablement évalué. Ce dont sont probablement le plus furieux les archéologues chinois, c'est que devant le barrage des Trois Gorges, ils ont, en 94-95, écrit au président de la République chinoise de l'époque pour dire « Avant, on va faire au moins un état des lieux, savoir ce que l'on ennoie. » Parce qu'il y a des choses qu'on va ennoyer définitivement, il y a des choses qu'on ennoie, que l'on connaît, sur lesquelles on va faire un coffre. Donc, ça reste. Il y a des choses que l'on va déplacer, d'autres que, je vous dis, on va ennoyer à moitié. Mais au moins, faisons l'état des lieux, quoi. Or, cet état des lieux, il a jamais été fait. Il a jamais été lancé. Il a jamais été accompagné par le pouvoir central.
Parce qu'il n'y avait pas les finances nécessaires?
Parce que l'urgence, c'était de construire ce barrage, que c'était une visibilité de l'état central. Il faut bien voir aussi que, avec le développement économique du pays, la Chine est toujours plus morcelée par le développement, avec des inégalités de développement, des disparités régionales, un littoral qui concentre 93% des exportations, plus de les deux tiers du PIB chinois, sur 14% de la superficie, enfin bon. Et devant ces dislocations internes, qui sont des risques d'éclatement d'une certaine manière, de trop fortes disparités avec des mécontentements possibles, avec des migrations de l'intérieur vers la côte, nous le savons tous, le gouvernement central a estimé qu'il fallait faire une politique d'aménagement du territoire qui recrée du lien territorial, qui recrée du lien entre ces territoires dynamiques et ceux qui le sont moins. Et le barrage des Trois Gorges, c'est fondamentalement un projet de développement à l'échelle nationale, au sens où il permet d'améliorer la navigabilité sur le fleuve et donc de désenclaver la Chine de la Chine intérieure, de diffuser du développement depuis la côte. Donc ça, cette priorité du développement, doublée d'une visibilité nationale, c'est la priorité absolue. Alors après, on peut avoir une autre lecture sur la question patrimoniale, qui est les archéologues japonais ont, dans les années 1970, mis en valeur, en fait, des sites très originaux de la région du Sichuan, il y a plusieurs milliers d'années. Et en fait, les archéologues sont d'accord pour dire que la Chine, ce n'est pas un pôle, le fleuve Jaune, et une diffusion à partir de ce seul pôle, que la Chine, ce n'est pas une linéarité, en fait, où la culture, les populations chinoises viendraient d'un berceau unique et auraient conquis progressivement l'ensemble de la Chine. C'est pas complètement faux non plus, hein. Bien sûr, le premier millénaire après Jésus-Christ a quand même été de conquérir toute la partie au sud du Yangtze. Mais les archéologues se mettent d'accord sur l'idée aujourd'hui qu'il y a eu trois foyers principaux de culture en Chine, du côté du fleuve Jaune, du côté de l'État du Yangtze et du côté du Sichuan, avec des cultures relativement différentes. Si vous regardez les sculptures du Sichuan, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que l'on connaît de la Chine du Nord. Donc nous aurions trois foyers différents qui se seraient réunis dans une culture commune qui est la Chine ou la culture chinoise. Par là même, ça voudrait dire que la Chine vient d'une diversité, d'une pluralité, si vous voulez, ce qui est instrumentalisé après par les provinces, par les pouvoirs locaux, en disant « oui, nous sommes chinois, cela va de soi ». Mais nous avons aussi une culture qui nous est propre.
Ce qui semble curieux, alors peut-être que vous allez pouvoir me dire si c'est vrai ou pas, mais les Chinois semblent très respectueux de leur passé. Ça voudrait dire qu'ils ne sont pas finalement plus touchés que ça par le fait que leur patrimoine, une toute petite partie de leur patrimoine, mais leur patrimoine quand même, soit ennoyé.
Mais est-ce qu'ils savent ce que c'est que le patrimoine ? Ce n'est pas toujours évident. Vous savez, on...
Vous voulez dire que c'est un manque d'informations ?
Non, on n'a pas forcément non plus la conception du patrimoine comme en Occident. On n'a pas forcément le culte des vieilles pierres.
Mais cette notion que les Chinois sont très respectueux de leur passé, de leur tradition, de leur culture, c'est une idée préconçue ou elle est valable ?
Elle est valable dans le sens où, notamment avec le confucianisme, Confucius disait « je n'innove pas, je transmets ». À savoir qu'il se situe fondamentalement dans une logique non pas de création, d'innovation, mais dans une logique de filiation. Je donne ce que l'on m'a donné. Donc, nous sommes dans du générationnel. Et effectivement, l'histoire de la Chine, c'est cela. C'est une accumulation, un patrimoine que l'on s'est donné. Mais ce patrimoine, c'est pas forcément de la pierre. Après tout, le Pékin qu'on est en train de détruire aujourd'hui, dans ses monuments les plus importants, la Cité interdite, le Temple du Ciel, même une partie de la Grande Muraille, ne date que des Ming du XVe siècle. Or, à l'échelle de l'histoire de la Chine, c'est hier, d'une certaine manière. Les bâtiments, souvent, ont été reconstruits à l'identique, si vous voulez, et on ne les considère pas moins authentiques que les vieilles pierres qui auraient pu être un peu pourries ou des pagodes en bois qui seraient... Vaut mieux les refaire telles qu'elles étaient, si vous voulez, mais en neuf, que de se risquer à se casser le cou à monter des escaliers quand on est touriste.
Autre conséquence, les conséquences écologiques, bien sûr, de ce barrage des Trois Gorges. Alors, la notion d'écologie semble très différente en Chine et en Occident. Pourtant, certains disent qu'il y a disparition des espèces qui sont extrêmement menacées, que ce soit dans la faune, la flore, le dauphin qui n'existe plus, le dauphin d'eau douce. Est-ce qu'on arrive déjà, même si l'eau n'est pas encore montée jusqu'à 175 mètres, est-ce qu'on a déjà des premiers résultats sur les conséquences écologiques?
Alors, elles peuvent se mesurer à plusieurs échelles. Alors, tout d'abord, rappelons-le, certes, bien évidemment, dans la culture chinoise, nous avons un rapport différent à la nature. Ça va de soi. Néanmoins, les Chinois, ils ont connu une occidentalisation, une modernisation au cours du XXe siècle. Ils ont connu un phénomène d'industrialisation dès les années 1950. Et la catastrophe écologique chinoise, elle date des années 50. Tout le monde, les Chinois sont les premiers à le dire. Et elle s'aggrave depuis les années 1980 avec l'industrialisation, l'urbanisation et une volonté de développement tous azimuts à quelque coût que ce soit. Alors, les conséquences du barrage des Trois Gorges, les conséquences environnementales, elles sont à plusieurs échelles. Elles sont à l'échelle du fleuve lui-même, au sens où, comme je le disais tout à l'heure, nous risquons une déstabilisation du delta du Yangtze avec une remontée des eaux salines. Nous aurons toujours à lutter contre les crues, même si elles sont normalement beaucoup moins importantes, en aval du barrage, dans les régions des lacs. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que le barrage, il régule les eaux de cette manière. Nous avons la région des pluies, bien évidemment, la saison des pluies, pardon, entre, mai et octobre. Donc le barrage se remplit d'eau jusqu'à 175 mètres d'altitude. Et puis après, il redistribue cette eau et on essaye en mai, en juin, de retomber à 145 mètres pour pouvoir reprendre ce trop d'eau de la saison des pluies. Et en cela, on régule. Les conséquences écologiques ou environnementales, plus en amont, c'est des phénomènes d'érosion, en fait, dans la région du Sichuan. Et donc, il faut lutter contre l'érosion, il faut reboiser, en fait, pour que les pentes ne s'écroulent pas. Ce qu'il faut en aval, c'est...
Les glissements de terrain, en d'autres termes.
C'est ça. Ce qu'il faut en aval, c'est lutter contre les paysans qui ont eu tendance à, sur ces grands lacs, ces grandes poches d'eau qui permettaient d'éponger justement l'eau qu'il y avait en trop et qui ont eu trop tendance à développer des terres pour les cultiver. Il faut retransformer ces terres cultivées en marais pour que ces espaces-là rejouent leur jeu de poumons pour absorber. Alors, il y a aussi, bien évidemment, ce qui est assez connu, les phénomènes pour la faune et pour la flore. Alors, un appauvrissement floristique avec une faune, effectivement, des poissons, par exemple, qui avaient pour habitude de remonter le fleuve à des saisons bien précises.
Pour frayer.
Qui ne pourront plus le faire. Comme vous l'avez dit, le dauphin du Yangtze qui a disparu, en fait, physiquement. Et puis, à une autre échelle, les conséquences environnementales, c'est le réservoir lui-même. Alors, le réservoir, c'est pas un lac, c'est pas un étang, hein, on n'est pas à Tignes ici. On est dans un réservoir qui est à peu près sur 663 km, et donc l'eau remonte au niveau des berges et en noie les berges. Bon. Donc on est monté à 145 mètres, puis après à 156 mètres, et puis on montera jusqu'à 175 mètres à une période dans l'année. Hein, ça ne sera pas continu. Hein, d'ailleurs, ça vous. On peut tout de suite s'imaginer les conséquences quand l'eau va rebaisser et tout ce qu'elle va laisser de déchets sur les berges en les faisant réapparaître. Bon, enfin, ça, c'est un autre problème. C'était pas forcément un atout touristique fort. La question, c'est que ce réservoir, tout d'abord, toutes ces berges qui ont été ennoyées, ces entrepôts, ces embarcadères dont on parlait tout à l'heure, on les a dynamités. On a dynamité les villes. Donc tout ça s'est accumulé au fond du réservoir. Par ailleurs, Chongqing, les villes en amont, il y a la pollution urbaine, les déchets urbains, il y a aussi la pollution industrielle, les eaux usées, tout ça, ça passe dans le réservoir, mais
oui,
ça,
parce que le tout égout n'existe pas.
Par le barrage. Ça sera bloqué par le barrage, pas forcément au niveau du barrage, ça sera même bloqué plus en amont, parce que tout simplement, la vitesse de l'eau aura baissé.
Vous êtes en train de nous dire que ça va finir par une immense poubelle.
C'est un gigantesque cloaque. Et c'est probablement l'un des éléments les plus inquiétants, effectivement. L'eau, aujourd'hui, n'est déjà pas propre, parce qu'il n'y a pas assez de stations d'épuration, et que les villes, les usines, elles balancent toutes leurs eaux polluées, tous leurs déchets, dans le fleuve. Alors, bien évidemment, le gouvernement central, ou les gouvernements provinciaux, en l'occurrence, prennent des mesures contre cette pollution. On multiplie les stations d'épuration, pas assez. On oblige les entreprises à, là aussi, épurer les eaux usées qu'elles vont rejeter dans le fleuve. Sauf que les amendes que vous avez si vous ne le faites pas sont moins élevées que le coût de créer des structures d'épuration. Donc, bon, et puis, vous savez, il y a les phénomènes éventuellement de corruption, enfin, les réseaux qui se mettent en place, qui font qu'il est très difficile de lutter contre ces problèmes. Mais là, c'est un problème commun à l'ensemble de la Chine.
Nous arrivons à la fin de cette émission. Thierry Sanjouan, quel est votre sentiment à vous qui êtes observateur de ce projet qui a vu le jour, le barrage des Trois Gorges? Quel est votre sentiment? Est-ce que vous faisiez partie des partisans de ce barrage ou est-ce que vous étiez plus prudent? Quel est votre regard là-dessus?
Oh, c'est difficile. Je crois que j'ai jamais eu une opinion véritablement très nette là-dessus. Parce que, on le voit bien dans ce qu'écrit notamment Florence Padovani sur les populations déplacées. Elles sont parfois déplacées, elles sont parfois relogées, elles sont parfois reconverties en termes économiques. On a sorti une région très enclavée, très miséreuse de sa complète misère. Le barrage, facteur développement, producteur d'électricité, régulateur. Après tout, en 98, on a connu de très grandes inondations qui ont fait des morts encore. Si on pouvait échapper à ce destin, on ne peut pas dire que ce soit néfaste. Donc le barrage a un rôle, si vous voulez. D'un autre côté, nous sommes aussi avec des inconnus environnementales, avec des inconvénients, en fait, qui sont d'ordre environnementaux, des luttes géopolitiques. Est-ce que le barrage, finalement, parce que, vous savez, il n'y a pas que le barrage, il y a aussi l'ascenseur à bateaux qui mène en 40 minutes les bateaux de 3000 tonnes de haut en bas et de bas en haut, bien évidemment. Et vous avez aussi deux séries de 5 écluses qui permettront en à peu près 2h30 aux bateaux de 10 000 tonnes de remonter jusqu'au plan d'eau du réservoir.
Avec un dénivelé d'une centaine de mètres?
Oui, à peu près. Un dénivelé variant en fonction d'ailleurs au niveau du réservoir. Est-ce que cela suffira pour désenclaver vraiment Chongqing, sucer du développement pour le Sichuan? Est-ce que l'on peut articuler ce marché avec le développement du littoral? Tout ça, ce sont des inconnus. Mais je pense que d'une certaine manière, le barrage doit être transformé comme une chance. Ce qui est plus inquiétant, par contre, c'est la multiplication d'autres barrages plus en amont, dans le Sichuan ou sur des affluents. Et la mode aujourd'hui que de toutes les municipalités ou de tous les districts, notamment dans le sud-ouest de la Chine, pour créer des barrages, parce que le barrage est à la mode, si vous voulez. Alors, pas forcément avec les mêmes sécurités qu'à le barrage des Trois-Gorges. Le barrage des Trois-Gorges, ils n'auraient pas suffisamment mis de ciment, des équilibres, il y a du matériel qui disparaissait la nuit. Enfin, en termes de sécurité, on s'est posé des questions. Quand ils ont enlevé les bâtards d'eau, quand ils l'ont mis en eau, d'une certaine manière, ils ont tout de suite prévenu, ah, on a déjà vu des fissures. Donc, ils se couvraient d'une certaine manière. Mais au fond, un tel barrage offre une telle visibilité à la Chine que le pouvoir chinois ne peut pas se permettre que cette histoire rate, si vous voulez. Ce qui est plus dangereux, c'est des barrages à des échelles régionales, à l'échelle du district, où là, l'autorité locale, est-ce qu'elle va avoir suffisamment d'argent, de moyens et peut-être de sérieux pour construire son barrage? Le gouvernement central, lui, il a une contrainte, c'est de publicité mondiale. Publicité mondiale à l'endroit de sa population qui est très fière que les Chinois soient encore capables de faire des choses équivalentes au Grand Canal et à la Grande Muraille.
Donc
aujourd'hui,
on a bien compris les enjeux, on a bien compris aussi qu'en tant qu'observateur, vous êtes très mesuré, vous arrivez à bien discerner le pour et le contre. Pour terminer cette émission, je vais quand même rappeler les articles de Florence Padovani que vous venez de citer, article sur lequel je me suis appuyée pour préparer cette émission, article que vous m'aviez indiqué, les effets sociopolitiques des migrations forcées en Chine liées aux grands travaux hydrauliques, l'exemple du barrage des Trois-Gorges, qui est une étude parue en avril 2004, et bien sûr, votre article, vous me faites signe, mais oui, j'allais y venir. Bien sûr, le barrage des Trois-Gorges entre pouvoir d'État, gigantisme technique et incidence régionale, qui est donc paru en 2001, mais qu'on trouve sur votre site personnel très facilement. Bien sûr, nous mettons sur notre site Canal Academy les références pour avoir accès directement à toutes ces lectures fort intéressantes. Merci Thierry Sangement de nous avoir rendu visite. Vous repartez bientôt en Chine?
Oui. J'en reviens et j'y repars là dans 2 mois.
Alors nous vous souhaitons bon vent. Merci. Et peut-être à une prochaine fois pour une nouvelle émission.
Merci beaucoup.